This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for French, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de français, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de francés, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texte A. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
vous allez entendre une jeune fille Jade qui parle de son premier travail avec son oncle Arthur.
Alors Jade, ce nouveau boulot étudiant, ça marche ? Pour un premier boulot, travailler dans une chaîne de restauration rapide, c'est pas mal.
Oui, j'aime bien mon travail, même si ce n'est pas très bien payé. Tu sais que je dois travailler pour payer mes études.
Pour un premier boulot et pour financer tes études, ça me semble un bon choix.
Merci.
Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler là ?
Surtout, tu sais, les horaires sont assez flexibles et je peux même travailler des heures supplémentaires, le soir et les week-ends.
C'est mieux payé ?
C'est ça, je gagne mieux et je peux économiser davantage.
Et qu'est-ce que tu fais exactement ?
Moi, je travaille à la caisse et comme je n'avais aucune expérience, j'ai suivi une formation de 2 jours.
Ah, attends, je vais chercher nos cafés. Tiens.
Merci.
Alors, ce n'est pas compliqué, ce boulot ?
À la caisse, c'est plutôt facile, mais parfois je dois prendre la commande ou servir les clients, et c'est un peu plus pénible.
Comment sont les clients ?
En général, ça se passe bien. Le plus difficile, c'est le client qui ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'il va commander.
Et comment tu fais ?
Eh bien, j'essaie de l'aider à se décider.
Et tes collègues ?
Ils sont sympas.
C'est bien de travailler dans une ambiance agréable.
Oui. Je suis super contente de mon boulot. Et toi, Arthur, quel a été ton premier travail ?
J'ai travaillé dans un marché. Je vendais des fruits et des légumes.
Tiens !
Tu sais, j'ai aimé ce travail. On commençait très tôt, mais ce n'était pas un problème pour moi.
Et le salaire ?
J'étais assez bien payé. Mais le plus important, c'est surtout que j'avais les soirées libres.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la 2e et dernière fois.
Alors Jade, ce nouveau boulot étudiant, ça marche ? Pour un premier boulot, travailler dans une chaîne de restauration rapide, c'est pas mal.
Oui, j'aime bien mon travail, même si ce n'est pas très bien payé. Tu sais que je dois travailler pour payer mes études.
Pour un premier boulot et pour financer tes études, ça me semble un bon choix.
Merci.
Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler là ?
Surtout, tu sais, les horaires sont assez flexibles et je peux même travailler des heures supplémentaires, le soir et les week-ends.
C'est mieux payé ?
C'est ça, je gagne mieux et je peux économiser davantage.
Et qu'est-ce que tu fais exactement ?
Moi, je travaille à la caisse et comme je n'avais aucune expérience, j'ai suivi une formation de 2 jours.
Ah, attends, je vais chercher nos cafés. Tiens.
Merci.
Alors, ce n'est pas compliqué, ce boulot ?
À la caisse, c'est plutôt facile, mais parfois je dois prendre la commande ou servir les clients et c'est un peu plus pénible.
Comment sont les clients ?
En général, ça se passe bien. Le plus difficile, c'est le client qui ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'il va commander.
Et comment tu fais ?
Eh bien, j'essaie de l'aider à se décider.
Et tes collègues ?
Ils sont sympas.
C'est bien de travailler dans une ambiance agréable.
Oui, je suis super contente de mon boulot. Et toi, Arthur, quel a été ton premier travail ?
J'ai travaillé dans un marché. Je vendais des fruits et des légumes.
Tiens !
Tu sais, j'ai aimé ce travail. On commençait très tôt, mais ce n'était pas un problème pour moi.
Et le salaire ?
J'étais assez bien payé. Mais le plus important, c'est surtout que j'avais les soirées libres.
Maintenant, vous avez 2 minutes pour finir de répondre aux questions.
Texte B. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre Stéphane interviewer Caroline pour son programme radio sur les écovillages.
Bienvenue, chers auditeurs. Ce soir, nous recevons Caroline Sureau, qui vit à Melès, un écovillage dans le sud de la France. Bonsoir, Caroline. Tout d'abord, parlez-moi des écovillages.
Bonsoir, Stéphane. Il en existe plusieurs types qui sont tous très différents. Mais de manière générale, un écovillage est un endroit où les habitants partagent les mêmes valeurs et vivent collectivement tout en respectant l'environnement.
Collectivement ? Vous cohabitez tous dans le même bâtiment ?
Ah non, pas du tout. Nous vivons en communauté, mais chaque famille a sa propre maison, tout comme dans d'autres villages.
D'accord. Un écovillage est plus écologique qu'une ville traditionnelle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
C'est vrai, l'environnement est notre priorité et nous faisons tous un effort pour le protéger. À Melès, nous sommes tous d'accord pour dire que le futur est catastrophique si nous ne changeons pas nos habitudes.
Et je sais que les habitations à Melès ont été construites avec une faible empreinte carbone.
C'est bien ça, avec la plus faible empreinte carbone possible. Nous avons utilisé uniquement des matériaux locaux.
Merci Caroline. Nous nous retrouvons très vite après une courte page de publicité. Nous sommes de retour avec Caroline. Alors, que faites-vous à Melès en ce qui concerne l'eau ou l'électricité ?
Eh bien, nous avons des panneaux solaires qui alimentent tout le village. Et nous avons aussi des réservoirs. Mais comme en France, il est illégal de consommer de l'eau de pluie, on l'utilise seulement pour le ménage ou pour arroser le jardin.
De plus en plus de gens changent leurs habitudes et prennent soin de la planète. Alors, qu'est-ce qui rend un écovillage si différent ?
La caractéristique essentielle de l'écovillage, c'est la solidarité. Nous sommes une vraie communauté et l'entraide est essentielle. Par exemple, si je ne peux pas réparer ma machine à laver, mon voisin Philippe s'en occupe. Et en échange, je garderai son chien quand il part en vacances.
Et pour finir, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs qui s'intéressent aux écovillages ?
C'est très simple. La première chose à faire, c'est de se renseigner en ligne sur notre site. Vous pourrez ensuite participer à une des réunions d'information qui sont organisées régulièrement.
Je vous remercie, Caroline.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Bienvenue, chers auditeurs. Ce soir, nous recevons Caroline Sureau, qui vit à Melès, un écovillage dans le sud de la France. Bonsoir, Caroline. Tout d'abord, parlez-moi des écovillages.
Bonsoir, Stéphane. Il en existe plusieurs types qui sont tous très différents. Mais de manière générale, un écovillage est un endroit où les habitants partagent les mêmes valeurs et vivent collectivement tout en respectant l'environnement.
Collectivement ? Vous cohabitez tous dans le même bâtiment ?
Ah non, pas du tout. Nous vivons en communauté, mais chaque famille a sa propre maison, tout comme dans d'autres villages.
D'accord. Un écovillage est plus écologique qu'une ville traditionnelle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
C'est vrai, l'environnement est notre priorité et nous faisons tous un effort pour le protéger. À Melès, nous sommes tous d'accord pour dire que le futur est catastrophique si nous ne changeons pas nos habitudes.
Et je sais que les habitations à Melès ont été construites avec une faible empreinte carbone.
C'est bien ça, avec la plus faible empreinte carbone possible. Nous avons utilisé uniquement des matériaux locaux.
Merci Caroline. Nous nous retrouvons très vite après une courte page de publicité. Nous sommes de retour avec Caroline. Alors, que faites-vous à Melès en ce qui concerne l'eau ou l'électricité ?
Eh bien, nous avons des panneaux solaires qui alimentent tout le village. Et nous avons aussi des réservoirs. Mais comme en France, il est illégal de consommer de l'eau de pluie, on l'utilise seulement pour le ménage ou pour arroser le jardin.
De plus en plus de gens changent leurs habitudes et prennent soin de la planète. Alors, qu'est-ce qui rend un écovillage si différent ?
La caractéristique essentielle de l'écovillage, c'est la solidarité. Nous sommes une vraie communauté et l'entraide est essentielle. Par exemple, si je ne peux pas réparer ma machine à laver, mon voisin Philippe s'en occupe. Et en échange, je garderai son chien quand il part en vacances.
Et pour finir, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs qui s'intéressent aux écovillages ?
C'est très simple. La première chose à faire, c'est de se renseigner en ligne sur notre site. Vous pourrez ensuite participer à une des réunions d'information qui sont organisées régulièrement.
Je vous remercie, Caroline.
Maintenant, vous avez 2 minutes pour finir de répondre aux questions.
Texte C. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre Yasmine guider un groupe qui visite l'Opéra Garnier à Paris.
Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Opéra Garnier. Vous avez beaucoup de chance d'être là, car cette visite n'est généralement pas accessible au public. Je m'appelle Yasmine Coriola, je suis employée ici et je serai votre guide pour la soirée. Je vous félicite d'avoir été sélectionnée parmi les finalistes de notre grand concours « Les Dessous de la danse ». Ce soir, je vais tout d'abord vous parler de ce prestigieux bâtiment, à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Puis, vous pourrez ensuite découvrir tous les secrets d'un spectacle. En premier lieu, et avant d'y entrer, parlons de l'Opéra Garnier lui-même. Il est mondialement connu comme le symbole de la danse classique, mais il est également une œuvre d'art en lui-même. Saviez-vous qu'il a été conçu par Charles Garnier, un jeune architecte complètement méconnu à l'époque ? Il a été achevé en 1875 après une douzaine d'années de construction. Regardez, vous pouvez observer par vous-même sa façade impressionnante, ainsi que ses nombreuses statues évoquant les arts, tels que la poésie, la musique ou encore le théâtre. Suivez-moi, nous allons maintenant entrer à l'intérieur. Devant vous, vous pouvez voir le grand escalier, chef-d'œuvre d'architecture imaginé par Charles Garnier et emblématique de l'opéra. Il est connu dans le monde entier. En plus des murs, si vous levez la tête, vous pourrez admirer les œuvres du peintre Isidore Pils. Mais voici enfin l'œuvre la plus connue de l'opéra, la fresque du plafond de la grande salle, qui fait plus de 220 mètres carrés. Elle a été réalisée par le peintre Marc Chagall et inaugurée et très critiquée en 1964. Il a même refusé d'être payé pour son travail. Suivez-moi, nous allons maintenant nous diriger vers les coulisses de l'opéra. Nous voilà de l'autre côté de la scène. Je vous rappelle d'être discret pour ne pas déranger les danseurs et de ne pas leur parler, même pendant leur pause. Lorsqu'on est spectateur, on ne réalise pas forcément tout ce qui se passe derrière les rideaux. Même si depuis la grande salle, nous voyons uniquement les artistes sur scène, leur succès dépend d'un très grand nombre de gens, tous professionnels et spécialisés dans leur domaine. Saviez-vous qu'une centaine d'employés travaillent en coulisses ? Une centaine ! C'est incroyable, non ? Il s'agit d'un vrai travail d'équipe. On peut donc dire qu'à l'Opéra Garnier, l'art est omniprésent, non seulement sur scène, mais également à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur jusqu'en coulisses.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Opéra Garnier. Vous avez beaucoup de chance d'être là, car cette visite n'est généralement pas accessible au public. Je m'appelle Yasmine Coriola, je suis employée ici et je serai votre guide pour la soirée. Je vous félicite d'avoir été sélectionnée parmi les finalistes de notre grand concours « Les Dessous de la danse ». Ce soir, je vais tout d'abord vous parler de ce prestigieux bâtiment, à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Puis, vous pourrez ensuite découvrir tous les secrets d'un spectacle. En premier lieu, et avant d'y entrer, parlons de l'Opéra Garnier lui-même. Il est mondialement connu comme le symbole de la danse classique, mais il est également une œuvre d'art en lui-même. Saviez-vous qu'il a été conçu par Charles Garnier, un jeune architecte complètement méconnu à l'époque? Il a été achevé en 1875 après une douzaine d'années de construction. Regardez, vous pouvez observer par vous-même sa façade impressionnante, ainsi que ses nombreuses statues évoquant les arts, telles que la poésie, la musique ou encore le théâtre. Suivez-moi, nous allons maintenant entrer à l'intérieur. Devant vous, vous pouvez voir le grand escalier, chef-d'œuvre d'architecture imaginé par Charles Garnier et emblématique de l'opéra. Il est connu dans le monde entier. En plus des murs, si vous levez la tête, vous pourrez admirer les œuvres du peintre Isidore Pils. Mais voici enfin l'œuvre la plus connue de l'opéra, la fresque du plafond de la grande salle, qui fait plus de 220 mètres carrés. Elle a été réalisée par le peintre Marc Chagall et inaugurée et très critiquée en 1964. Il a même refusé d'être payé pour son travail. Suivez-moi, nous allons maintenant nous diriger vers les coulisses de l'opéra. Nous voilà de l'autre côté de la scène. Je vous rappelle d'être discret pour ne pas déranger les danseurs et de ne pas leur parler, même pendant leur pause. Lorsqu'on est spectateur, on ne réalise pas forcément tout ce qui se passe derrière les rideaux. Même si depuis la grande salle, nous voyons uniquement les artistes sur scène, leur succès dépend d'un très grand nombre de gens, tous professionnels et spécialisés dans leur domaine. Saviez-vous qu'une centaine d'employés travaillent en coulisses? Une centaine! C'est incroyable, non? Il s'agit d'un vrai travail d'équipe. On peut donc dire qu'à l'Opéra Garnier, l'art est omniprésent, non seulement sur scène, mais également à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur jusqu'en coulisses.
Maintenant, vous avez le reste du temps pour finir de répondre aux questions.